Voilà, donc bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer en arrivant. Alors moi, c'est Richard, hein, effectivement. Hein? Tu es rentré à quelle heure ce matin? Bon, il te sera beaucoup pardonné. Hein? Voilà. Alors le titre de la méditation ce matin, donc un détour par le chemin du désert. C'est un titre qui est tiré d'un passage d'Exode 13. Hein. Dans ce titre, il y a deux noms qui sont intéressants pour la suite du développement qu'on va faire. Il y a le nom détour. Donc un détour, c'est un trajet sinueux, tout parcours autre que la voie directe, dit le dictionnaire. Le détour, on comprend donc que ce n'est pas le chemin le plus rapide pour parvenir à destination. Si on va au même endroit, on met un temps supérieur. Le deuxième nom relevé, c'est le nom désert. Définition du dictionnaire, lieu aride, hostile, inconfortable, et le chrétien rajoute lieu de sanctification où l'on peut chercher la face de Dieu et le rencontrer. Alors un titre, un détour par le chemin du désert qui fait référence au trajet du peuple hébreu lors de sa sortie d'Égypte en direction de la terre promise, qui était son héritage. C'est-à-dire que c'était le pays que l'Éternel avait juré de donner à ses ancêtres. Et cet héritage, eh bien, le peuple hébreu devait aller en prendre possession afin de s'y établir pour, nous dit la parole dans Exode 19, verset 6, devenir un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, une bénédiction donc pour toutes les nations. C'était le projet de l'Éternel pour le peuple qu'il s'était choisi. Genèse 12, verset 3, confirme cela en disant « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La terre promise, l'Éternel l'a décrit lui-même dans Ézéchiel 20, au verset 6. Il nous l'a décrit comme « un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. » Amen. Hein ? Avec un programme comme ça, on pense que les Hébreux devaient être motivés pour y arriver. Hein ? Un pays, donc, qui est décrit comme une région fertile, riche. On sait que dans ce pays, il y avait des figuiers, des dattiers, des noyers, des vignes en abondance. Et donc, la promesse de ce don qui avait été fait à Abraham, à Isaac et à Jacob, donc c'est bien la lignée, hein, Abraham, Jacob, Isaac et Jacob, hein, c'est la lignée qui est héritière de ce royaume. Certains essayent de dire autre chose, hein, mais ce sont Abraham, Isaac et Jacob qui sont les héritiers, et leurs descendants qui sont les héritiers de cette promesse. Donc pour ça, cette annonce-là, c'est une bénédiction après 430 ans d'esclavage en Égypte. Par extension, si on l'applique aux croyants, eh bien le désert, on dira que ce sont des moments difficiles qui vont jalonner notre vie spirituelle alors que nous sommes en route sur la voie de la sanctification pour devenir des chrétiens affermis et vivre une vraie communion avec Dieu. Amen. Alors une info ce matin, les enfants du Seigneur doivent manifester dans leur vie la nature du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ce matin? Amen. Parfait, très bien. En effet, Dieu est saint et il veut que son peuple forme une nation sainte, c'est ce qu'on vient de lire juste avant. Dans 2 Corinthiens 7, au verset 1, il est écrit Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On comprend que la sanctification, ça n'est jamais une option dans la vie chrétienne. La sanctification, c'est la marque évidente de l'appartenance à un Dieu saint. 1 Pierre 2, verset 9-10, nous dit « Vous, au contraire des incrédules, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » La sainteté, frères et sœurs, c'est la normalité pour ceux qui confessent que Jésus est Seigneur. Alors on est en marche pour la sainteté parfaite. Hein ? On est dans la voie de la sanctification. C'est un travail progressif que l'Esprit de Dieu, avec nous-mêmes, eh bien, conduit chez ceux qui confessent Jésus comme Seigneur. 2 Timothée 2, verset 19, la deuxième partie du verset nous dit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Ecclésiaste 9, verset 8, vient renchérir là-dessus et nous dit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Ça veut dire tes vêtements, que la sanctification, que se sanctifier est de notre responsabilité individuelle, que tes vêtements et que le Saint-Esprit, cette huile dont on parle, sera notre aide. Amen. Alors, grâce au Saint-Esprit, hein, cette huile bienfaisante, nous pourrons mener à bien cette tâche de la sanctification. Sans cela, ça n'est pas quelque chose de possible, hein, par les propres moyens humains. C'est ce que confirme 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et là, eh bien, va suivre un balayage non exhaustif, n'est-ce pas, de ce qui est entendu par sanctification. Mais il y a d'autres facettes que celle-là. L'apôtre Paul, par exemple, dit dans 1 Corinthiens 12, au verset 31, « Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » C'est-à-dire, il faut le comprendre comme « Je vais vous montrer ce qui est le plus important pour vous. Hein, » et dont finalement tout le reste va découler, c'est-à-dire l'amour véritable. Alors vous pourrez relire à ce propos 1 Corinthiens 13, que je résume ainsi. Si je n'ai pas en moi cet amour-là dont on vient de parler, cet amour véritable, cet amour agapé, cet amour qui vient de Dieu, alors tout le reste ne me sert à rien. Donc la sanctification, c'est, nous disait le précédent verset, que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. 1 Pierre 1, versets 14 et 16. Vous voyez que nous restons accrochés à la parole. Hein ? On essaye de ne pas dévier. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et oui, parce que lorsqu'on a fait profession de foi en faveur de Jésus-Christ, Seigneur, alors on ne peut plus plaider l'ignorance de la volonté de Dieu pour soi, seulement la négligence. Il faut comprendre ça, il faut le réaliser, c'est important, hein, pour nous. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc le message, je pense qu'il est bien passé, hein. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, et que ceux qui lui appartiennent, eh bien, suivent ses voies en obéissant à sa parole, c'est-à-dire en la mettant en pratique. Hein ? Alors, ceci étant dit, à propos de marcher, donc, on va rejoindre maintenant les Hébreux. Les Hébreux, au moment où, après avoir vécu ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, par l'intermédiaire desquels, en fait, Dieu avait manifesté sa main puissante au bénéfice de son peuple, hein, parce que Pharaon ne voulait pas accéder à la demande de l'Éternel de laisser partir, de laisser sortir d'Égypte son peuple. Alors le peuple, eh bien, il a vu de grandes choses, c'est le moins que l'on puisse dire, hein. Exode 13, verset 17-18. Donc le peuple est sorti, Pharaon l'a laissé partir. Il nous est dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple, donc le titre, un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. C'est le type du désert où Dieu nous conduit. Il y a plusieurs types de déserts. Le désert comme celui qu'on va étudier où c'est Dieu qui nous conduit dans ce lieu. Mais il y a d'autres déserts où on peut s'y mettre tout seul, par exemple. Hein ? Alors paradoxalement, en tout cas à vue humaine, ben on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne privilégie pas la voie rapide qui passe donc par le territoire des Philistins pour rallier Canaan. Les Philistins, grosso modo, hein, ils étaient situés sur des terres de l'actuelle bande de Gaza. Ça, on se situe à peu près, je pense, hein, c'est-à-dire sur une carte en bas à gauche de l'État d'Israël actuel. Donc ça, c'était grosso modo l'emplacement des Philistins. Et le chemin qui permettait de passer d'Égypte jusqu'au pays des Philistins, hein, ce chemin en question, eh bien, il longeait le bord de la Méditerranée. Et c'était un chemin qui était une voie commerciale, un chemin qui était connu, qui était parcouru par les caravanes de chameaux, hein, qui faisaient le lien avec l'Égypte. Et ceux qui ont calculé cela nous disent que même si on faisait le trajet à pied, eh bien, ça pouvait se faire en quelques jours sans difficulté particulière. Eh bien, Dieu ne choisit pas de passer par ce chemin-là, hein. Alors il nous est dit dans ce qu'on vient de lire que l'Éternel, en fait, il anticipe un éventuel conflit avec l'armée des Philistins qui pourrait décourager le peuple, qui pourrait l'inciter à rétrograder, hein, c'est-à-dire à revenir en arrière sur le lieu de son esclavage, d'où ils étaient partis. Alors c'est quand même un peu particulier, cette raison-là. Mais il nous est dit que l'Éternel, qui sonde les reins et les cœurs, hein, c'est dans Apocalypse 2, verset 23, l'Éternel qui sonde les reins et les cœurs, eh bien, il connaît parfaitement l'état d'esprit des Hébreux. Il connaît leur manque de foi, il connaît leur manque de courage face à des situations angoissantes. Il connaît leur disposition au désespoir. Étonnamment, ces Hébreux, ils semblent avoir tout oublié de la puissance que Dieu a manifestée en leur faveur pour leur permettre de quitter l'Égypte. Parce que quand même, les 10 plaies, c'était quelque chose, ça, hein ? L'eau du Nil changée en sang. Invasion de grenouilles, de moustiques, de mouches venimeuses. La mort de tout le bétail des Égyptiens. Les ulcères qui s'abattent sur les Égyptiens, la grêle, les sauterelles, les ténèbres pendant 3 jours, que sur les Égyptiens. La mort des premiers-nés, des hommes et des animaux. Je pense que ça doit s'oublier difficilement si on vit de telles choses. Et pourtant, il semble que malgré tout ce que le peuple a vu, ces miracles, eh bien, il n'a pas le réflexe de placer sa confiance en Dieu lorsqu'il est en difficulté. Dieu n'avait-il pas pourtant démontré qu'il était le Tout-Puissant ? Comment des personnes qui ont vécu de telles choses pouvaient douter de sa capacité à les délivrer encore ? C'est vraiment incompréhensible. Ça me fait penser au Ebenezer que Joël a évoqué il y a quelque temps. Hein ? Tu avais dit que tu avais eu une expérience particulière. Ebenezer, la pierre du secours, hein, que l'on a plantée à un moment donné pour que le peuple se souvienne que le Seigneur, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Hein. Mais il y a un autre passage de la Bible qui vient apporter un autre éclairage sur cette situation qui va lui donner du sens. Et c'est l'Éternel qui parle. Ézéchiel 20, verset 7-8. C'est l'Éternel qui parle. Ça, je ne l'avais jamais vu et je l'ai découvert là en faisant cette méditation. Je n'avais jamais fait le lien avec la situation précédente. Donc l'Éternel parle et il dit, « Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards, et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. » Ah ! Là, il y a quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose qui permet de mieux comprendre la réaction des Hébreux. Pourquoi les Hébreux risqueraient, face à un conflit armé, de s'enfuir, d'avoir peur, de tout lâcher, de partir en courant, de repartir en arrière. On comprend à la lecture de ces versets qu'en fait, ils étaient restés dans un compromis spirituel, hein, un mélange. Ils connaissaient l'Éternel, mais ils connaissaient aussi les innombrables idoles, hein, qui étaient dans le pays d'Égypte. Et donc, ils étaient, à cause de liens ténébreux qui demeuraient, hein, de leur ancienne vie, parce qu'ils n'avaient pas été abandonnés, c'est tout. Hein, il est dit, aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards. Ils étaient quand même dans le peuple de Dieu. Hein, mais aucun n'avait rejeté les abominations qui attiraient ses regards. Donc en fait, il ne pouvait pas, le Seigneur ne pouvait pas les laisser partir sur ce chemin au risque de tomber sur une armée, parce qu'en fait, ils étaient, ces Hébreux, en proie à une opposition spirituelle qui les maintenait dans la rébellion et qui contrôlait leurs pensées et leurs forces pour les empêcher de vivre pleinement la délivrance accordée par l'Éternel. Ils ne pouvaient pas passer tout droit, ils ne pouvaient pas aller vite où le Seigneur voulait les amener. Il y avait quelque chose qui les empêchait d'avancer dans cette voie. Alors, eh bien, Dieu va imposer au peuple le fameux détour par le chemin du désert, ce qu'on appelle dans le langage courant une traversée du désert, avec des objectifs spirituels pour son peuple. Démontrer que lui, l'Éternel, il était capable de pourvoir à tous les besoins physiques et spirituels. Ils voulaient éprouver leur foi. Ils voulaient se révéler à eux, révéler sa loi. Ils voulaient que les Hébreux puissent développer leur connaissance de lui-même et de ses attentes dans leur vie. Et ils voulaient aussi sanctionner la désobéissance et l'incrédulité, non pas pour détruire, mais pour incliner les Hébreux à la repentance. Et de surcroît, eh bien, ils voulaient les préparer spirituellement à la conquête de ce fameux pays promis. Hein, spirituellement, parce que c'est l'Éternel qui combattait pour eux. Ils n'avaient pas besoin de savoir manier les armes dans cette affaire-là. C'était une question spirituelle. Dieu avait démontré sa toute-puissance en Égypte. Alors voilà, eh bien, les Hébreux, ils changent de route, et ils s'enfoncent dans le désert, mais pas comme ça, guidés par Dieu. Dieu qui va se tenir devant eux, nuit et jour, dans une colonne de nuée ou une colonne de feu. Pourquoi cela ? Eh bien, pour que les Hébreux sachent que jour et nuit, il reste avec eux, jour et nuit. Il va leur indiquer la direction, parce que dans le désert, il n'y a pas de repère, au contraire du chemin rapide qui longeait la Méditerranée, ils ne pouvaient pas se perdre, il suffisait de suivre le bord pour remonter au-dessus. Il pouvait aussi les protéger des ennemis, il pouvait aussi, par sa présence lumineuse, les rassurer, leur donner de l'assurance, ce dont ils manquaient beaucoup. Il pouvait aussi contrôler leurs mouvements. Les Hébreux n'étaient pas libres d'aller à droite, d'aller à gauche. Il fallait suivre la colonne dans laquelle Dieu se trouvait. Alors, tout va bien. Mais soudain, l'armée de Pharaon, qui avait changé d'avis entre-temps, eh bien, arrive sur les talons des Hébreux. Et coincés entre la mer Rouge devant, les Égyptiens derrière, eh bien, les Israélites, comme d'habitude, on voudrait dire, eh bien, ils se croient perdus, ils paniquent, et bizarrement, ben, ils crient à l'Éternel. Mais tout en doutant, en fait, de pouvoir être secourus par lui. C'est un peu une habitude, une routine. Exode 14, verset 12. Il dira à Moïse, « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Donc il crie à l'Éternel, mais en fait, il ne compte pas sur lui. « Laisse-nous repartir tranquille, fiche-nous la paix, Moïse. » Alors Moïse, eh bien, lui, il va les encourager à mettre leur foi en action. Verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous apporter, pas demain, après-demain, dans 15 jours, en ce jour. » Eh bien, Dieu va démontrer sa puissance et son amour pour son peuple, effectivement. En faisant quoi ? En ouvrant miraculeusement un passage dans la mer Rouge, puis en y engloutissant la totalité de l'armée égyptienne. La fin du verset 28 nous dit « Il n'y eut pas un seul rescapé. » Verset 31, la fin aussi, nous dit « Le peuple craignit l'Éternel à la suite de cela, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. » Et alors que font-ils ? Eh bien, ils se mettent à chanter en l'honneur de l'Éternel, un cantique de délivrance. Passant, comme ils le feront souvent, de l'incrédulité à la foi, ce qui est bien, mais en attendant la fois prochaine où ils passeront de la confiance au murmure. C'est leur mode de fonctionnement. Les Hébreux procèdent comme ça. Donc après cette victoire brillante de l'Éternel, ben le peuple, il n'en peut plus de joie, et on peut les comprendre. Et donc il reprend son périple dans le désert. Et après trois jours de marche, on nous dit qu'il arrive à la source de Mara. Alors trois jours de marche dans le désert, on peut comprendre que ça presse, Il y a la source, Et donc ils se précipitent à la source pour s'y désaltérer. Moi, je les vois bien se jeter dedans. Ah, déception totale. L'eau est amère. Elle est totalement imbuvable. Et voilà que 3 jours au désert, eh bien, on suffit pour passer donc de la confiance en l'Éternel à la rébellion, du cantique enflammé au murmure. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Moïse, là, qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce que tu fais avec ton Dieu, là ? Tu nous as emmenés là, on a soif, on va mourir. Et pourtant, encore une fois, Dieu va pourvoir aux besoins de son peuple. Il va purifier l'eau miraculeusement. Hein, on sait qu'il va jeter un morceau de bois dedans, qui va nous rappeler, nous, hein, faire référence à la croix de Jésus, n'est-ce pas ? Alors d'une part, on comprend que le désert, eh bien, il révèle au peuple ce qu'il est. Et il est bon, à un moment donné, de comprendre ce que nous sommes, qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Pouvoir comprendre que derrière les constructions qu'on a pu faire en nous-mêmes, ce qu'il y a vraiment, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de facilité à s'illusionner, n'est-ce pas ? C'est une sorte de protection, hein, on ne veut pas être embêté, alors on se protège, hein, on a une muraille, une armure. Le désert nous révèle, hein, nous permet de fendre l'armure et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, par nous-mêmes. Et d'autre part, le désert permet que nous comprenions aussi la bonté de Dieu, son amour, qui prend soin du peuple, malgré tout, malgré son comportement, malgré tout ce qu'il peut dire, hein, et contester. Alors, on ne va pas prendre tous les événements de la traversée du désert les uns après les autres, hein, mais on va dire qu'au fil de ce parcours, eh bien, ils vont arriver jusqu'à la frontière du pays de Canaan. Donc, c'était l'objectif. Ils arrivent à la frontière, mais il y avait encore un pas à faire. Et un sacré pas, hein, un pas de foi pour aller de l'autre côté. Et pendant tout ce trajet, ben, il nous est dit que les Hébreux, ben, ils vont continuer à murmurer et se plaindre à la moindre occasion. Problème d'eau, problème de nourriture, rébellion contre l'autorité de Moïse. En fait, les Hébreux, ils vivent que dans le négatif. Ils ne respirent que par le négatif. Hein. Ils ne voient que les circonstances défavorables du moment. On ne va pas plus loin que ça. Hein. Leur foi en l'Éternel, au bout de ce parcours, elle est devenue inexistante. Hein. Leur spiritualité, elle n'est plus qu'une routine, une habitude. Hein. Comme ils ont fait précédemment, ils ont crié à l'Éternel, parce que c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, mais sans avoir la foi pour que ce secours de l'Éternel puisse se mettre en œuvre. Alors devant cette frontière, eh bien les Hébreux vont faire quelque chose que l'Éternel n'avait pas demandé, parce que lui, il avait dit « Emparez-vous de ce pays ». Ben, ils arrivent devant et ils décident en fait d'envoyer un peu comme les forces spéciales là, pour faire une mission de renseignement, hein, pour évaluer l'état des forces de l'autre côté de la frontière, l'état des forces cananéennes. Donc, il y a un certain nombre de personnes, 12, hein, un par tribu, qui s'en vont donc à la pêche aux informations. Et ces 12 espions, ces 12 informateurs, il nous est dit qu'ils reviennent 40 jours plus tard. Donc, ils sont restés sur le terrain un bon moment. Ils ont donc bien pris la température du lieu. Hein. Donc, il y a un rapport. Ils arrivent, il y a le rapport, et seuls deux d'entre eux, donc on les connaît bien, c'est Caleb et Josué, eh bien, sont d'avis d'engager le processus de conquête comme l'Éternel l'avait prévu, l'avait demandé. Nombre 13, verset 30. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs, par la foi. Par contre, les 10 autres, tous les autres, eh bien, ils font un rapport très défavorable. Hein. Et ils vont, même s'ils disent voir ce que l'Éternel avait évoqué, le lait, le miel, etc., ah, oui, ils l'ont vu. Mais ils vont insister insister essentiellement sur les éléments négatifs de la situation. Ils vont parler de la présence de géants, ils vont parler de villes fortifiées, et ils vont vraiment dire il vaut mieux renoncer à la conquête. Hein, et le peuple, eh bien, le peuple, il va avoir envie de retourner en Égypte quand ils entendent ça. Négligeant, encore une fois, qu'ils connaissent l'Éternel, que c'est l'Éternel qui leur a promis cet héritage et qui leur a demandé d'en prendre possession. Ce qui voulait dire que l'Éternel, il allait pourvoir à cela. Nombre 13, verset 33, donc c'est le rapport des 10 espions négatifs. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Alors évidemment, ça fait peur quand même. Hein. Alors le peuple est découragé quand il entend ça et puis il refuse d'avancer. Quoi. Hein, le pays promis, on n'en veut pas. Hein. Et donc par leur incrédulité et donc par leur mépris de Dieu, parce que c'est ça que ça veut dire l'incrédulité. Si je ne crois pas aux promesses de Dieu, en fait je méprise ce que le Seigneur me dit, hein, me fait savoir. Eh bien, à cause de cela, et ça c'est important pour nous-mêmes, il nous est dit les Israélites vont prolonger leur séjour au désert de 40 ans. Pour une désobéissance, hein, de 40 ans. Nombre 14, verset 34. De même, alors il est dit, c'est l'Éternel qui parle. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. 40 ans. 40 ans, c'est le temps qu'il faut pour que meure la génération qui a connu l'Égypte, qui a emmené dans ses bagages toutes les idoles de l'Égypte et qui ont fait un mélange, hein. Sauf Caleb et Josué, hein. Cette génération-là, eh bien, il va falloir qu'elle meure. C'est ce que l'Éternel projette. Hein. Il modifie le projet qui était le sien au départ. Et il va vouloir que cette génération qui a connu l'Égypte, eh bien, elle meure. Elle est sortie d'Égypte, mais elle ne connaîtra pas le pays promis. Ça doit aussi nous parler en tant que chrétien. Hein. Cette génération est sortie de l'Égypte, mais elle n'a pas connu le pays promis. J'ai mon salut, mais je dois persévérer jusqu'à la fin. Nombre 14, verset 22-23. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ça nous parle, pour nous chrétiens, de notre vieille nature qui doit s'effacer pour que la nouvelle puisse advenir. Hein? Alors soyons sûrs que Dieu punit sévèrement le péché parce qu'il est saint. Il est obligé de punir le péché parce qu'il est saint. Romains 8, verset 29. Quelle leçon on va tirer pour nous de cette histoire, tout ce qu'on vient de dire. Romains 8, verset 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Le projet de Dieu pour nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est de ressembler à son Fils, le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est également notre objectif? C'est l'objectif du Seigneur. Est-ce que nous le partageons? Est-ce que chaque jour davantage être à la ressemblance de notre Seigneur, c'est quelque chose qui nous parle, quelque chose qui nous motive, hein? Et on peut faire le parallèle avec le peuple d'Israël et nous-mêmes. Comme avec le peuple d'Israël, Dieu veut avoir avec nous une relation de cœur à cœur. C'est ça qu'il recherchait avec son peuple. Comme avec les Hébreux, il désire se révéler à nous. Il désire nous révéler sa volonté. Et pour cela, le désert semble, malheureusement ou bien heureusement, au bout du compte, le désert, il semble inévitable. Parce que notre vieille nature, c'est la même que celle des Hébreux à l'époque. Hein ? Mais ne soyons pas effrayés par ce genre de perspective. Hein ? Parce que la parole de Dieu nous montre aussi que nous devons être sûrs que si Dieu nous conduit au désert, eh bien, ça n'est pas pour nous détruire. Mais c'est pour nous bénir, si nous l'acceptons, ce désert, et si nous gardons notre confiance en l'Éternel. Il y a quand même des conditions. Hein ? Il veut nous bénir, mais pour cela, il faut que nous acceptions cela et que nous placions notre foi, notre espérance en lui. Ésaïe 43, verset 19 nous dit « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Amen. Dieu, il veut nous corriger, certes, mais comme un père qui aime ses enfants. Hein ? Alors, quel que soit le type de notre désert ce matin, que ce soit Dieu qui nous y ait conduit ou qu'on s'y soit mis tout seul dans le désert, hein, un peu comme Élie lorsqu'il avait accompli ses exploits, hein, qu'il avait détruit les prophètes de Baal, etc. Il nous est dit qu'à un moment donné, hein, il marcha dans le désert. Hein, il subit une espèce de dépression là, après avoir eu ce moment de victoire impressionnante, importante. Il a, comme on dit, un coup de bambou, hein, et il va de lui-même dans le désert pour y chercher la mort. Hein ? Alors, lorsqu'on est plongé dans une situation de désert, alors évidemment, nous, on n'est plus dans un désert réel, hein, c'est un désert par analogie, comme on dit. Hein, c'est un désert peut-être physique, un désert certes spirituel, ça peut être des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes professionnels ou bien d'autres. Eh bien, il est vrai que notre vieille nature va faire que nous allons avoir tendance à développer des sentiments d'insécurité, de dépouillement, de vide intérieur. Et puis, on a surtout l'impression, dans ces moments-là, que Dieu s'est éloigné, que l'on est complètement abandonné, qu'on n'a aucune espérance, hein, que Dieu est devenu sourd. Il ne nous entend pas. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut garder foi dans le nom du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous ne parvenons plus à le discerner autour de nous dans ces moments-là, qu'il n'est pas là. Hein ? Et ça, c'est le processus qu'ont vécu les Hébreux après la sortie d'Égypte. À un moment donné, ils ont eu peur, et tellement peur, qu'ils en ont oublié la puissance de Dieu, qu'ils ont oublié tous les miracles qui avaient été réalisés pour leur permettre de s'enfuir, de sortir. Bien, c'est la même chose pour nous. Un jour, malgré que nous marchions avec l'Éternel, eh bien, il y a quelque chose qui bascule dans notre vie. Il y a des problèmes qui arrivent, etc. etc. Et nos pensées, eh bien, elles deviennent négatives, comme pour les Hébreux. Et parce qu'elles deviennent négatives, alors eh bien, notre confiance en Dieu, elle va commencer à s'effriter, comme pour les Hébreux. Alors en fait, notre problème, c'est comment aller plus loin que ce que nos yeux voient. C'est ça notre problème de chrétien. Comment aller plus loin que ce que nos yeux voient ? Parce que c'est facile de rester devant ce que nos yeux voient. C'est logique même, je dirais. C'est facile et c'est logique. Hein ? Alors on peut voir comment Moïse a réagi. Hein ? Dans son cas, c'est sa confiance en Dieu qui lui a permis d'avancer plus loin. Hein ? Malgré la mer qui lui faisait barrage, il se retrouve devant la mer Rouge. Et des féroces qui arrivent derrière. Hein ? Alors certainement que, à vue humaine, il devait être un peu perturbé quand même en tant qu'humain en voyant la horde qui arrivait derrière, hein, avec les chars, etc. 600 chars, je crois que c'était. Ça devait faire de la fumée, du bruit. Mais il n'a pas écouté ses sentiments. Pourtant, c'était le comportement normal, quoi, hein, de l'homme. Face à ce genre de choses, on a peur, quoi. Hein. Mais là, Moïse, il a décidé de faire confiance. Pas comme ça, hein, mais parce qu'il avait reçu la promesse de Dieu. Et donc, il lui fait confiance malgré que ce qu'il voit de ses yeux, ça ne va pas du tout dans le sens de la promesse. Hein. Bloqué par la mer, les Égyptiens qui arrivent avec les couteaux entre les dents. Et que fait Moïse? Eh bien, il nous est dit qu'il a levé les mains en tenant le bâton donné par l'Éternel. Et alors, la mer s'ouvrit. La symbolique de ce lever de main, hein, c'est en fait un geste de dépendance, un geste d'abandon total dans les mains du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous lorsqu'il nous conduit au désert, c'est que nous soyons dans l'abandon total dans ses mains. Hein? C'est laisser à nos pieds tous les fardeaux qui nous oppressent, les situations qui nous dépassent complètement, pour attendre le secours et la consolation que seul le Seigneur peut donner. Pas nous débrouiller par nous-mêmes, de toute façon, on va faire une catastrophe. Hein? Mais attendre la délivrance du Seigneur. Donc dans nos déserts, eh bien, il faut rester dans la foi en la parole du Seigneur qui dit, Proverbe 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Psaume 9, verset 10, 11, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom, et nous le connaissons en tant que chrétiens, se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Amen. Hein ? Il faut saisir ce genre de promesse. La parole de Dieu, elle est définie dans Éphésiens 6 comme l'épée de l'Esprit. Donc, il ne faut pas, si c'est une épée, il faut que ça serve. Hein ? Sinon, on l'accroche sur le mur et on la stique de temps en temps. Là, ça ne sert plus. L'épée de l'Esprit, mais il ne faut pas avoir peur de la brandir comme l'épée qu'elle est, hein, et d'affirmer avec elle, comme dans le psaume 90, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Alors que nous ayons cette arme, évidemment, à notre disposition, c'est certain, mais ça n'empêche pas, parce que c'est facile aussi de parler, hein, mais ça n'empêche pas que les situations, eh bien, elles restent pénibles, voire très pénibles à vivre sur le moment. Hein. Mais il n'empêche que cette affirmation, hein, que nous venons de lire, là, eh bien, elle doit nous rassurer quant à l'avenir. On est encore dans l'obscurité, au milieu du tunnel, mais il y a un avenir. Même s'il y a des ténèbres, il y a des angoisses devant nous, il faut confesser d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce qui signifie quoi ? Pas qu'une phrase, c'est pas un mantra, hein, qu'il faut répéter pour s'en persuader. Ça signifie que rien ne se fait sans que Dieu ne le sache. Hein. Le désert, c'est pour nous apprendre à dépendre de Dieu. Hein. Et non à compter sur nos propres capacités. Parce que ça, on aime bien compter sur nos propres capacités. Hein. C'est plus vite, c'est le chemin le plus rapide. Comme Abraham, qui avait essayé de le faire en essayant d'une manière toute humaine de réaliser la promesse divine d'un fils qui lui succède, qui lui susciterait une postérité. Alors cette expérience que le peuple d'Israël, on a fini, hein, rassurez-vous, cette expérience que le peuple d'Israël a faite dans le désert, eh bien, elle nous est rapportée, pourquoi ? Faire passer le temps ? C'est une belle histoire, on la racontera à nos enfants au coin du feu. Oui, on la racontera au coin du feu, certes. Mais elle nous est rapportée pour nous servir d'exemple. Hein ? Rappelons-nous, ils ont eu besoin de 40 ans pour apprendre à dépendre de Dieu. Sommes-nous dans la même perspective ? Hein ? Dans le désert, ils ont eu besoin de 40 ans pour être brisés, en fait. Hein ? Il n'y avait pas d'autre solution pour le peuple que de dépendre de Dieu dans le désert et d'en dépendre complètement, jusque dans les moindres détails de leur vie et même de leur survie. Hein ? Et bien malgré cela, il y en a qui n'ont pas cédé. Hein ? Le désert, pour nous, ça sert à nous rendre aptes au service de Dieu. apte à faire de nous des ouvriers utiles entre ses mains. Et quand il y a des déserts dans nos vies, ben parfois, on marche à l'amertume. Hein. Dans le cœur, c'est compliqué. Hein. On marche à l'effondrement psychologique, à l'effondrement spirituel, on lâche tout, comme les Hébreux. Alors vraiment, que celui qui ne voit plus rien, que celui qui ne voit plus clair, celui qui est perdu, celui qui est dans le noir complet, eh bien, il est foi dans le nom du Seigneur. Parce que lui saura nous délivrer. Tout de suite, demain, dans 15 jours, on ne sait pas. On ne sait pas, ça peut prendre 40 ans, éventuellement. Hein ? Il saura nous délivrer lorsque son œuvre aura été accomplie en nous. C'est-à-dire lorsqu'on l'aura laissé accomplir ce qu'il veut faire en nous et avec nous. Amen. Alors peut-être que cette obscurité, ben, elle va nous sembler un peu longue. Hein. Mais il faut se rappeler qu'un tunnel, ça n'est jamais infini. Aussi long soit-il, un tunnel n'est pas infini. Et c'est le Seigneur qui va nous sortir du tunnel. Amen. Et lorsqu'on va sortir du tunnel, alors il va y avoir une transformation en nous. Parce que la lumière qu'on voyait toute petite au fond du tunnel, eh bien, elle va paraître encore plus resplendissante qu'avant d'y entrer. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Je termine en vous laissant deux versets issus du psaume 138, versets 7 et 8. « Quand je marche au milieu de la détresse, » alors ça se lit par la foi, « quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. » Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Amen. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Pour terminer, qu'est-ce qu'on retire de ce verset, au-delà de l'exaltation qu'il suscite, hein? Eh bien, quelque chose quand même de fondamental sur la définition de la foi, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on tient comme une béquille, mais c'est quelqu'un, Jésus, qui nous tient. Amen.